Messieurs, dames, bonsoir. Vous êtes toujours à l'écoute du studio Kalangou. Il est 18h. Tout de suite, le journal en français présenté par Rayleigh Soumana. 5 jours après la mort d'un étudiant lors des affrontements entre élèves et forces de l'ordre, les parents n'ont pas pu jusqu'ici récupérer la dépouille de leur enfant. Les explications du père du défunt dans ce journal. Les événements du 10 avril dernier suscitent toujours des réactions. Aujourd'hui, vous suivrez celles des organisations des étudiants de Niamey et de France. Dans ce journal également, le point de vue de la coalition des partis politiques de l'APR, l'ex-rallié à la mouvance présidentielle, et celui du porte-parole du gouvernement, Assoumane Malang Issa. Un rapport de plusieurs organisations non gouvernementales relève des incohérences dans les premières déclarations publiques des paiements effectués par la société Areva au Niger, soit, estime-t-elle, un sérieux manque à gagner pour le pays. On en parle dans cette édition. Enfin, dans la partie magazine, nous parlerons de l'émigration des Africains vers l'Europe, particulièrement du Niger vers l'Allemagne. Retour sur les événements du 10 avril dernier pour commencer ce journal. 5 jours après l'intervention des forces de l'ordre sur le campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey, les parents de Mala Bagalé, ce jeune homme qui a trouvé la mort lors des affrontements, n'ont pas encore reçu l'autorisation de récupérer le corps de la victime. Gungu Mahamman Dantani a joint par téléphone ce matin le père de la victime. Je vous propose de l'écouter. Tendez l'oreille, la liaison n'est pas parfaite.
Ils sont partis maintenant ce matin, là, ils sont en train de discuter. C'était une affaire de certificat de décès. Au début, ils ont demandé l'autopsie. Pourtant, on ne s'est pas opposé. Ensuite, maintenant, encore, on dit, l'autopsie, ils ont vu que ça n'a pas de sens et autres, tout ça là. Ils tournent, hein, jusqu'à la primature, jusqu'à la présidence. Au niveau de la police judiciaire, là, actuellement.
L'affaire est au niveau de la police judiciaire, vient de dire le père du défunt, propos recueillis par Gungo Mahamman. L'UNUN, la structure syndicale des étudiants, a rendu public hier son propre bilan des événements du 10 avril. Elle annonce le chiffre d'un mort, 3 portés disparus, 200 blessés, 62 personnes arrêtées. Je vous rappelle que le gouvernement, lui, affirme qu'aucune perte humaine n'est à déplorer du fait de l'intervention policière et que la mort du jeune étudiant est la conséquence d'un accident. Dans sa déclaration rendue publique hier, l'UNUN pointe du doigt certains responsables. Sita Hamidou Djabiri, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey, est au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
Quant aux responsabilités, nous avions constaté que et les recteurs, et les ministres des enseignements supérieurs, et les ministres de la Défense assurant l'intérim du ministre de l'Intérieur, ils sont tous complices d'une telle situation. C'est un projet funeste qui consiste tout simplement à la fermeture du campus universitaire pour se débarrasser des étudiants. Parce que le contexte est que le gouvernement n'a pas la capacité de donner des réponses claires et concrètes aux revendications que nous avions posées et par conséquent nous chasser de la cité universitaire aujourd'hui. Pour eux, c'est une bouffée d'oxygène et donc nous ne comptons pas nous taire par rapport à toutes ces questions de violations graves des droits de l'homme. Jusqu'à nouvel ordre, les activités académiques sont suspendues par le comité exécutif.
Demain, 15 avril, l'Union des étudiants et stagiaires nigériens en France projette d'organiser une manifestation dans l'après-midi devant l'ambassade du Niger à Paris en France pour soutenir leurs camarades de Niamey. Selon Yahya Harouna Abdoulatif, secrétaire général de la structure, 200 étudiants nigériens boursiers de France vivent aussi dans la précarité car n'ayant pas perçu de bourse depuis la rentrée académique 2016-2017.
Nous avons demandé à tous les étudiants nigériens de France de venir nous prêter main forte à Paris. Le jour de la manifestation, il y aura le principal syndicat étudiant français qui a plus de 110 ans d'existence et le syndicat lycéen, l'Union nationale des lycéens de France. Nous avons le soutien de toutes les organisations syndicales européennes qui ont signé une plateforme revendicative commune avec nous et c'est une manifestation qui est autorisée par la préfecture de police de Paris. Donc c'est l'autorité qui gère toutes les autorisations de manifester sur la voie publique. Parce que la France, c'est le pays de la liberté, ce n'est pas le Niger. Ou quand les scolaires nigériens revendiquent le minimum de leurs conditions de vie, on les réprime dans les sangs jusqu'à causer un mort. Donc nous dénonçons cette situation et nous demandons l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités.
Propos recueillis par téléphone par le studio Kalangou. Autre réaction, celle de l'Alliance pour la paix et la République, l'APR, la coalition de partis politiques qui sont avec le MNSD, l'ex-parti de l'opposition ayant rallié la mouvance présidentielle il y a quelques mois. Dans un communiqué rendu public hier, l'APR dénonce, je cite, « l'usage abusif de la force publique dans le maintien de l'ordre » et demande l'ouverture d'un dialogue franc entre tous les partenaires de l'école nigérienne. Le porte-parole de l'APR, Seyni Salatou, au micro de Moussa Hassan.
C'est avec surprise que nous avons assisté le lundi à cette chasse aux sorcières, à ces poursuites dans les rues, dans le campus, en violation des franchises universitaires, où des étudiants ont été tabassés, les élèves ont été tabassés juste dans les écoles. C'est pourquoi, au niveau de l'APR, nous dénonçons cet usage abusif dans le maintien de l'ordre. Il ne faudrait pas que les agents de l'ordre oublient que ceux qui sont en face d'eux, ce n'est pas des ennemis, et que le maintien de l'ordre est régi par la loi. Notre préoccupation majeure est que tout doit être fait en rapport avec la loi, en rapport avec la cohésion et la paix nationale. Malheureusement, ce qui s'est passé le lundi, ça aboutit à des arrestations, à des blessés qui sont dans des situations graves et surtout à des morts d'hommes, ce qui n'est pas du tout acceptable. Et dans le cadre de l'apaisement de la tension, nous pensons qu'il y a deux mesures qu'il faut prendre rapidement. C'est l'ouverture du campus universitaire qui a été fermé, aussi bien à Niamey Camaradi, mais aussi la libération de ces enfants qui ont été arrêtés. Nous avons aussi demandé à ce que le dialogue puisse être véritablement installé. Mais nous demandons aussi à l'ensemble des partenaires de l'école, à l'ensemble des forces vives de la nation, un sursaut national et aller vers le meilleur pour notre école.
Autre réaction toujours après les événements du 10 avril dernier, celle du ministre porte-parole du gouvernement, Assoumane Malang Issa, dans son entretien qu'il a accordé à notre reporter Habibou Garba. Le ministre revient sur la levée des franchises universitaires, l'arrestation des étudiants et également sur les mesures pour valider l'année scolaire en cours. Je vous propose d'écouter cet entretien.
Par rapport à la levée de la franchise, les éléments de réponse ont été donnés par mon collègue de l'enseignement supérieur. Ça a été fait du concert avec les autorités rectorales et je crois que conformément aux textes qui sont en vigueur, la levée a été respectée après des concertations avec ces autorités-là.
Il y a plusieurs d'entre eux qui sont aux arrêts. Alors qu'allez-vous faire? Vous allez les libérer ou bien?
Ça fera partie des points qu'on va échanger. Je crois que tout ce que nous allons faire, c'est selon deux principes. Le premier principe, c'est de le respect des textes en vigueur et le second principe, c'est de la recherche de l'apaisement. Et le gouvernement, comme les étudiants, on est dans une situation où il faut faire des concessions de part et d'autre pour qu'on puisse trouver des compromis.
L'année ne sera pas blanche, vous l'avez dit hier. Quelles sont les mesures alternatives?
Même avec les enseignants de le cadre du primaire, on est en train de faire des pourparlers. On va échanger, en tout cas, on trouvera avec tous ces partenaires sociaux-là des compromis qui pourront permettre effectivement de valider l'année et de valider les résultats académiques.
Un manque à gagner pour le Niger de 15 millions d'euros, soit plus de 9 milliards de francs CFA en 2015 du fait de la société Areva. C'est ce qui ressort d'un rapport appelé « Transparence à l'état brut, décryptage de la transparence des industries extractives » publié par un groupe d'organisations non gouvernementales internationales, parmi lesquelles Oxfam France et Sherpa. Pour comprendre la signification de ces chiffres, le point de vue d'Ali Idrissa, coordinateur du ROTAB, une organisation qui intervient dans le domaine minier au Niger. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Ce rapport montre que les dernières négociations des contrats entre Areva et le Niger ont été réalisées en la défaveur du Niger. Areva continue à bénéficier d'exonérations fiscales et d'autres avantages que le Niger lui a accordés. On parle d'environ sur seulement une certaine catégorie de taxes de 10 milliards de francs CFA de perte. Alors que vous savez bien que le Niger représente quand même 30% de l'approvisionnement de Areva, qui n'est pas négligeable. Dans tout ce que Areva a réalisé, Areva n'a versé que 7% au Niger cette période. C'est ce que nous avions toujours dénoncé, que les négociations Areva-Niger n'ont jamais été gagnant-gagnant et que certaines autorités nigériennes ont eu à compromettre les intérêts du Niger dans le cadre de ces négociations.
La région de Diffa est confrontée depuis le début de l'année à l'hépatite E. 75 cas ont été recensés, dont 25 ont été mortels. Ce matin, le comité régional des gestion des épidémies a étudié la situation sous la présidence du gouverneur de la région, Lawali Dandano, également président du comité. Nuhuma Lamsoulé, chargé de communication à la direction régionale de la santé, assure que des dispositions ont été prises pour faire face à l'épidémie.
À la date d'aujourd'hui, nous avons eu 75 cas notifiés dans nos formations sanitaires. Très malheureusement, dans les 75 cas, il y a eu 25 décès. Et là, il faut le préciser, la plupart des cas, dans les 75 cas, il y a eu 63 cas qui sont vraiment des femmes. En ce qui concerne les districts touchés, il faut comprendre déjà, il y a le district de Diffa qui a notifié des cas, le district de Méné, le district de Ningimi et le district de Bosso. Les tests là-bas ont confirmé qu'il s'agit bel et bien de l'hépatite E.
Concrètement, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens?
Donc, par rapport à cette situation, on n'est pas du tout resté les mains mortes parce que ça avait couru à bas bruit, mais que 75 cas avec 25 décès, c'est déjà une situation qui interpelle. Nous avons déjà eu à mettre des actions en place.
Propos recueillis par Adam Baboukarna, notre correspondant à Diffa. Pour terminer ce journal, une autre page consacrée à la santé, santé des enfants. Cette fois-ci, le déficit alimentaire exceptionnel enregistré cette année dans le département de Mayaï, région de Maradi, a eu pour conséquence une augmentation des admissions de ces enfants dans les centres de santé. Docteur Oumar Suntal, le médecin-chef du district sanitaire de Mayaï, souligne la montée en flèche des indicateurs de la malnutrition par rapport à l'année passée à la même période. Il est au micro de Mohamed Maman.
Cette situation exceptionnelle se remarque déjà dès le premier trimestre. Au niveau du CRENAM, CRENAM c'est-à-dire la prise en charge de la malnutrition modérée, nous avons enregistré cette année 7804 enfants contre 3661 à la même période l'année passée. Pour ce qui est de l'CRENAS, ça veut dire la malnutrition aiguë sévère, cette année, nous avons pris en charge à cette période, pendant les trois premiers mois de l'année, 7548 enfants contre 6613 en 2016. Cela prouve que déjà nous sentons les effets de cette crise alimentaire sur nos admissions au niveau de nos services de santé par rapport aux enfants malnutris que nous recevons. Sans tenir compte de ceux qui ont quitté déjà avec leur malnutris, avec leurs enfants pour rejoindre d'autres cieux. Si on est resté ici, la situation allait être plus encore catastrophique.
À présent, la partie magazine de cette édition, ils sont plus de 800 000 Africains qui vivent en Allemagne venant des 54 pays. Un réseau regroupant plus de 500 associations des ressortissants africains a été créé pour alléger les souffrances de ceux qui sont en situation irrégulière. Le Conseil de la jeunesse du Niger, en collaboration avec la présidente de ce réseau, ont animé une conférence de presse hier après-midi au palais du 29 juillet à Niamey. Sur les dangers de l'immigration clandestine de l'Afrique vers l'Europe. Reportage Soumana Amadou.
Docteur Sylvie Nancha vit en Allemagne. Avec son réseau, cette Camerounaise rencontre la chancelière Angela Merkel chaque mois pour parler de la situation des Africains dans le pays. Elle sait de quoi elle parle. Elle a rencontré de nombreux migrants clandestins qui n'avaient pas conscience des difficultés qu'ils allaient rencontrer en allant en Europe.
Personne n'aurait imaginé que premièrement, il devait faire un an, deux ans, trois ans, quatre ans. J'ai rencontré un Nigérian qui a fait 15 ans en route avant d'arriver. La deuxième chose, c'est que personne n'aurait imaginé que ce voyage devait coûter autant. Au départ du voyage, on dit ça coûte 1000 ou 2000 euros. Arrivé en route, il faut encore payer la traversée du désert. Après, il faut payer la traversée de la Libye. On se retrouve en train de travailler, faire des travaux forcés pour pouvoir gagner de l'argent pour payer la suite du voyage. Le troisième truc, c'est qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il devait avoir un statut illégal, c'est-à-dire faire une demande d'asile.
2000 Nigériens vivent en Allemagne. Un millier de ces Nigériens sont en situation régulière. Mais pour les autres, c'est tout un calvaire. Nasser Mamadou, représentant des Nigériens à Berlin.
Parfois, ils n'ont même pas là où abriter. Il y a des moments où le climat est tellement horrible où on se retrouve à moins 9, moins 10 degrés durant l'hiver. Il y a une grande souffrance.
La solution, c'est de suivre la voie légale en demandant une carte bleue, une carte qui permet de travailler dans l'Union européenne. Retrouvons Dr Sylvie Nancha.
L'Allemagne particulièrement sort toutes les années une liste qu'elle appelle la liste positive, donc avec tous les secteurs où on a besoin des gens qualifiés. Beaucoup de gens ne la connaissent pas, même nos ambassadeurs en Allemagne. C'est également notre devoir de la faire connaître, de dire aux jeunes, on ne vous demande pas de ne pas venir en Europe, on vous demande de choisir une voie légale et voici les moyens que vous avez à votre disposition pour pouvoir venir en Europe.
Sylvie Nancha va faire une tournée dans la sous-région et diffuser les témoignages des migrants clandestins sur les télévisions.
C'est la fin de ce journal. Restez à notre compagnie pour le forum de la presse avec Alassane Kouzi.